sera le prochain champion du monde de breakdance? La réponse, le week-end prochain au Maroc. Marrakech va accueillir la compétition internationale de référence dans ce domaine. Ça s'appelle les Undisputed Masters. Zoubir Choubi est l'un des organisateurs de l'événement. Nous serons avec lui dans la deuxième partie de l'émission. La belle vie, nom d'une exposition photo présentée actuellement à la Villa des Arts de Rabat. Durant 3 ans, Tarek Ananou a suivi des migrants dans le nord du Maroc. La belle vie, c'est celle dont ils rêvent, celle qu'ils espèrent sur l'autre rive de la Méditerranée. Et puis avec nous ce dimanche, une chanteuse française, Nash, alias Anna Chédid, en concert la semaine prochaine au Maroc, à Meknès, Rabat et Casablanca. Et nous sommes en ligne avec elle. Bonjour Nash.
Bonjour.
Votre deuxième album sort au printemps prochain. Ce dimanche, on commence l'émission avec vous. On a plein de questions à vous poser sur votre parcours, sur vos envies, vos projets. Pour se mettre dans l'ambiance, on commence, Nash, par vous écouter. Vous chantez en français. La chanson qui vient s'appelle « Je suis moi ». Je vous avoue que c'est l'une de mes préférées. Je demande aux éditeurs d'écouter les paroles et on parle ensemble juste après. Ça vous va ?
Parfait. Génial.
Je veux être belle, mais j'y arrive pas. Dans ma tête, c'est pas la joie, c'est la fête. Dehors, on danse, on s'embrasse et moi je pense. Je les vois, les jolies filles, dans les rues, elles me titillent. Leur démarche douce et fragile m'insupporte, ça me rend hostile. Je suis moi.
Je suis moi, Nash, avec nous dans Ban Culture ce dimanche. En soirée, les belles plantes se déhanchent, flamboyantes en paillettes et en œillades. C'est un fait, ça me rend malade. Un beau jour, mon heure viendra. À mon tour, la candeur et l'éclat. Je suis moi, rien que moi. Nash, parlez-nous un petit peu de cette chanson.
Cette chanson, c'est vraiment une ode à la libération et à la décomplexion. C'est l'idée de personne n'est parfait et voilà, il faut réussir à s'accepter et à justement se détacher un peu des codes et essayer de révéler profondément qui on est et s'aimer et voilà, s'accepter. C'est un long travail qui est assez bénéfique et bienveillant.
Vous écrivez vous-même les textes que vous chantez, vous composez les musiques. Il faut dire que vous avez été à bonne école, vous venez d'une famille d'artistes. Votre grand-mère paternelle, c'était André Chédid, poétesse, une œuvre importante. Elle avait reçu le prix Goncourt de la poésie en 2002. Votre père, c'est le chanteur Louis Chédid. Vous êtes la sœur du chanteur M. Vous avez un autre frère, Joseph Chédid, chanteur lui également. Vous êtes la petite dernière, Anna Chédid. Quelle famille, quelle famille. C'est une chance, j'imagine. Est-ce que ce n'est pas un peu écrasant dans le sens où ça mettrait un peu de pression?
Quand j'étais plus jeune, un petit peu. C'est-à-dire que j'ai mis du temps à accepter, l'écriture. J'adorais chanter, j'adorais écrire, j'adorais composer, mais j'acceptais pas vraiment de le faire, en tout cas professionnellement, parce que je me disais que ça allait être un peu trop compliqué, d'essayer de trouver sa place là-dedans et tout ça. Et puis un jour, à 18 ans, je me souviens, j'écrivais quand même déjà pas mal de chansons, et je me suis dit, non, Anna, vraiment, là, mets-toi face à la réalité, et écoute ton cœur, et c'est vraiment ça que t'aimes faire, et c'est ça ta passion, donc tu seras heureuse si tu fais ça, donc pense à toi, et fais-le, et assume-le, et voilà, j'ai décidé de le faire, mais au début, ça a été compliqué, et puis après, plus les années avancent, et plus je prends confiance en ce que je fais, et j'ai des retours aussi extérieurs du public et les gens, et ça, c'est le plus beau cadeau du monde, et c'est grâce à ça d'ailleurs que aujourd'hui je me sens libérée de tout ça et que j'arrive à faire vraiment ce que j'ai envie de faire, quoi.
Il n'y a plus d'interrogation. Cet accueil du public, ça vous a conforté? Je suis fait pour ça.
Voilà, en tout cas, j'ai assumé vraiment et je me suis dit, écoute-toi, fais-toi confiance. Fais-le, si c'est ça que tu sens, fais-le.
Je suis moi, rien que moi.
Voilà, c'est ça.
Anna Chédid, donc ce nom de scène que vous êtes choisi, Nash, c'est la dernière syllabe de votre prénom et le début de votre nom de famille. Ça vient pas nulle part, hein. C'est un surnom que l'on vous a donné quand vous étiez toute petite déjà, je crois.
Ouais, c'est ça, c'est vraiment mon surnom. Tous mes amis m'appellent comme ça depuis toujours. Et en fait, quand je me suis posé la question de trouver un nom pour ce projet, pour mes chansons, je ne voulais pas m'appeler Anna Chédid, non pas parce que je voulais renier ce nom de famille, non, c'était vraiment parce que je voulais créer un univers et créer un univers un peu poétique, un peu onirique et tout ça. Et je me disais que trouver un nom pourrait m'aider à ça. Et je me suis dit que je voulais quand même parler de cette filiation. Anna, c'est vraiment le pont entre Anna et Chédid. Et donc, entre Chédid, d'où je viens, mes racines et cet héritage qui est quand même très important et qui me constitue. Et Anna, qui je suis, ce que j'en fais et ce que ça devient de par mon spectre à moi, en fait. Et je trouvais ça intéressant, en fait.
Vous avez vécu une aventure formidable en famille, c'était il y a 3 ans et demi, une tournée avec votre père et vos deux frères, un spectacle monté en famille, une 30aine de concerts, au final, un album en prime. Vous pouvez nous en dire quelques mots de cette expérience?
Ouais, c'était assez incroyable. En fait, Mathieu et Louis, donc mon frère et mon père, nous ont proposé ça avec Joseph. Moi, je venais de sortir mon album, mon premier album, c'était presque au même moment. Donc pour moi, c'était un peu compliqué comme choix parce que je me disais, je m'émancipe, je sors mon premier album, je fais ma première tournée et il s'avère qu'au même moment, je vais partir en tournée avec ma famille et sûrement faire aussi un album avec eux. Donc j'étais un peu entre ces deux choix-là, quoi, entre retourner avec ma famille ou vraiment m'émanciper. En fait, je me suis rendu compte par l'expérience et le fait d'avoir accepté, en fait, est un très bon choix parce que je me suis rendu compte que le fait de faire cette tournée avec la famille, ça nous a vraiment aidé, Joseph et moi, en tout cas, qui était moi encore installé. Ça nous a vraiment aidé à trouver vraiment notre place, en fait, parce que le fait de jouer ensemble tous les soirs, ça a vraiment révélé nos personnalités différentes. Ça nous a mis les uns à côté des autres et donc ça a vraiment fait ça a fait naître et ça a vraiment révélé ces personnalités-là, ces voix différentes, ces écritures différentes, et ça nous a vraiment aidé à trouver vraiment notre place avec Joseph. Donc en fait, c'était assez magique.
On écoute un extrait de cet album réalisé en famille, Louis, Mathieu, Joseph et Anna Chédid. La chanson s'appelle « On ne dit jamais assez aux gens qu'on aime, qu'on les aime ».
Ses parents, ses amis, ses femmes qu'on affectionne, avec lesquels on dort, on dîne, on parle au téléphone.
Souvent quand nos regards se croisent, y a comme une chaleur. Mais de là en faire des phrases, trop de pudeur. Trop de pudeur. On ne dit jamais assez aux gens qu'on aime,
par peur de les gêner, qu'on les aime. On leur dit jamais assez que sans eux, sans elles, on serait même pas la moitié de nous-mêmes.
Avant de nous dire au revoir, marcher à l'ombre, avant que sur notre histoire le rideau tombe.
Je veux déclarer à tout ce petit monde qui m'entoure, la vie serait dans sombre sans vous autour.
Vous tous autour, on ne dit jamais assez aux gens qu'on aime, par peur de les gêner, qu'on les aime. On leur dit jamais assez que sans eux, sans elle, on serait même pas la moitié de nous-mêmes.
Voilà, on ne dit jamais assez aux gens qu'on aime, qu'on les aime. Anna Chédid, cette chanson, en l'occurrence, elle est, on la doit à qui ?
À mon père, Louis.
Vous êtes mytho à la musique. Vous dites que vous avez toujours su que vous feriez de la musique, mais sans forcément savoir que vous en vivriez un jour. Vous nous disiez que le déclic, ça s'est fait à 18 ans. 18 ans, c'est amusant, c'est l'âge de la majorité civile, légale.
Ouais.
À partir de 18 ans, on se dit effectivement, ouais, l'âge devient adulte. Vous, vous étiez déjà engagé, à 18 ans, on vient d'avoir son bac normalement. Vous aviez une idée d'études à suivre, vous aviez imaginé une profession, quand vous vous êtes dit non, mais non, je vais être chanteuse. Vous en étiez où de votre réflexion sur votre chemin,
en
votre
fait,
parcours?
Je me suis rendu compte que j'avais tellement évolué dans un milieu artistique que ma vie, encore aujourd'hui, je m'en rends compte, hein, encore aujourd'hui, tout tourne autour de ça. Je regarde énormément de films, j'ai beaucoup au théâtre, je lis, j'écoute de la musique. En fait, ma passion, c'est la photo, la photographie aussi, la peinture. Ma vraie passion, c'est l'art, avec toutes les formes. Ça peut être la danse, ça peut être le théâtre, et ça. Et je suis vraiment passionnée par tout ce qui est artistique. Donc, en fait, je me suis demandé à un moment donné si je devais pas me diriger plutôt vers le théâtre pour justement être un peu plus originale. Que ça faire comme tout le monde dans la famille, mais en fait je ressentais que, en fait c'est même pas que je ressentais, c'est que je me suis rendu compte que je vivais là-dedans, en fait je vivais vraiment là-dedans, et que c'est ça qui m'animait et qui me transportait. Donc j'étais de la plus belle manière prise au piège, mais dans le plus beau des pièges, qui est que voilà, j'aurais pas pu faire autre chose, en fait, je crois, quand même, avec du recul aujourd'hui.
Vous jouez du piano, vous jouez de la basse, de la batterie également, je crois.
Un peu, ouais.
Un peu. Et durant votre parcours, vous êtes essayé à plein de styles musicaux. Vous le dites, de toute façon, vous, ce qui vous intéresse, c'est toutes les formes d'art. Vous avez appris l'art lyrique à un moment. Qu'est-ce que ça vous a apporté? Ça permet de développer sa voix, de la dompter.
Ouais, bah, c'était génial. J'ai commencé par le lyrique, vraiment, le chant. J'ai fait 2 ans de lyrique dans un conservatoire la voix, bon, pour la technique vocale, c'est sûr que c'est un outil fabuleux, mais ce que j'en retiens surtout, c'est de chanter ces airs complexes, grandiloquents, magnifiques, voilà, chanter des airs d'opéra, de classiques, qui sont quand même, c'est du costaud, c'est-à-dire que c'est pas de la chanson pop, quoi, au niveau de la trajectoire, des notes et tout ça, c'est quand même de la haute voltige, voilà, c'était pour moi, un des jeux les plus, comme on dirait, excitant, auquel j'ai joué, quoi, dans ma vie, quoi. De voir, voilà, d'écouter un air magnifique, très beau, hyper émouvant, très complexe, et d'essayer de le rejouer, de le réinterpréter, c'était génial. J'adorais ça.
Nash, on vous écoute à nouveau. Un autre extrait de ce premier album qui était sorti en 2015. La chanson s'appelle « Oh oui, je t'aime ».
Midi, un bain de culture avec David Labo.
Dans nos métros, en moi fait mouche, je peux pas rester. Oh.
Je t'aime, cette chanson sur une ville. La ville en question, Nash, c'est laquelle? C'est la capitale, c'est Paris?
Ouais, c'est Paris, ouais.
Vous dites que vous l'aimez, mais en même temps que vous voulez la quitter.
Voilà, et je l'ai quittée finalement. maintenant, je suis plus à Paris, mais ouais, voilà, j'ai vraiment cette sensation-là. Paris, pour moi, c'est la plus belle ville du monde, et en même temps, voilà, vivre à Paris au quotidien peut être très violent. En tout cas, moi qui suis très sensible en général, et puis même à l'énergie, à la violence et tout, moi, Paris, à un moment donné, m'a un peu agressé et en même temps je trouve que Paris est magnifique et que c'est un endroit somptueux, donc en fait je trouvais ça intéressant de parler justement de cette ambivalence entre ces deux extrêmes, quoi.
Quitter Paris pour aller où?
À la campagne.
D'accord.
À côté de Paris, hein, j'habite à 40 minutes de Paris, mais j'habite à la campagne et je vais à Paris presque tout le temps, donc je vais à Paris plusieurs fois par semaine, je dois y aller peut-être 400 fois par semaine, donc je passe quand même mes journées à Paris, mais le soir je rentre au calme et j'ai plus d'espace, et j'apprends que l'espace, quand on crée et tout ça, l'espace c'est primordial en fait, la lumière et l'espace, c'est... j'avais du mal à composer dans mon petit 32 mètres carrés à Paris. Depuis que j'habite à la campagne, j'ai plus d'espace, plus de lumière et j'ai l'impression que j'ai plus d'espace pour mes idées aussi et que ça marche mieux à ce niveau-là.
Nash, vous avez repris un tube des années 70, un tube signé Pierre Vassiliou. Alors, nos éditeurs ne le connaissent pas forcément, mais à l'époque, ça avait été un phénomène en France, cette chanson. Hein. Qui c'est celui-là? Pourquoi avoir repris cette chanson?
Déjà, j'adore, c'est un thème brésilien et j'adore ce thème musical, donc ça, je trouvais ça super. J'adore cette chanson parce que je la trouve assez drôle et en même temps très touchante, parce que c'est vraiment, voilà, qui c'est celui-là, il est complètement toqué, ce mec-là, c'est qui celui-là, et ça parle vraiment de l'autre, quoi, de la peur de l'autre, de la peur de la personne qui nous ressemble pas et de la peur de l'étranger. Et je trouve ça intéressant d'en faire quelque chose de... Voilà, au final, ce personnage, il est très touchant, il est très attirant, alors que la chanson raconte le contraire. Et je trouvais ça assez marrant par rapport à mon histoire aussi, de ma famille, de reprendre ça, parce que qui c'est celle-là, elle débarque. Qui c'est cette fille-là, quoi, parce que je l'ai réécrit version féminine. Et voilà, je trouvais ça assez marrant. J'aime bien ce thème, en fait. Je trouvais ça assez touchant.
Mais qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle a? Qui c'est celle-là? Complètement toquée, cette fille-là.
Une pin-up, je ne paye pas de mine. Avec mes grosses fossettes, ma petite poitrine. Mais je ne sais pas pourquoi quand je souris aux mecs, ils veulent toujours m'emmener derrière dans leur famille. Et toutes leurs femmes disent de moi, mais
qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle a? Et qui c'est celle-là? Elle est complètement toquée, cette fille-là.
Faute à moi si les hommes mariés préfèrent sortir avec moi pour jouer à la poupée. Ils aiment mes cheveux bruns et mes yeux polissons, mais je crois que ce qu'ils préfèrent, c'est mon petit ventre rond. Et leurs femmes disaient de moi, mais
qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle a? Et qui c'est celle-là? Complètement toquée, cette fille-là. Complètement gaga. Elle a une grande tête, cette
faire des affaires, je manquais de malice. Je montais dans mon engin interplanétaire et je ne remis jamais les pieds sur la terre. Et les hommes disaient de moi, mais qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle a?
Oh, qu'est-ce que c'est là? Moi complètement toqué, cette fille-là. Elle complètement gaga. Elle a une bande de tête, cette fille-là. Qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle a? Et puis sa bagnole, les gars. Elle est vraiment bizarre, les gars. Qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle a?
Oh, qu'est-ce que c'est là? Mais qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle a? Et qui c'est celle-là?
Et qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle a?
Qui c'est celle-là, votre reprise impeccable de cette chanson de 1974 signée Pierre Vassiliou. Nash, des artistes peut-être avec qui vous aimeriez travailler en France aujourd'hui?
Alors, les artistes avec qui j'aimerais travailler aujourd'hui en France.
Des artistes qui vous inspirent, ouais. Où vous vous dites, je suis assez proche de cet univers, en tout cas, leur univers me parle.
Ouais. Après, donc là, j'ai participé à un album de reprise de Véronique Sanson avec elle, en fait, qui s'appelle Duo Volatile. C'est des duos avec Véronique Sanson. On en a fait un avec la famille, justement, et voilà, j'ai rencontré Véronique Sanson et je trouve que c'est une femme incroyable, qui est auteur, compositeur, interprète, qui est au piano et qui est une femme, voilà, qui est dans une vraie liberté. Et un côté aussi assez fort, une femme artiste, comme ma grand-mère était une femme écrivaine, voilà. Une femme artiste qui impose ses mots, qui impose sa vision de la vie, des choses. Je trouve que c'est un acte encore aujourd'hui assez fort. Et voilà, je trouve que Véronique Sanson, dans son côté très indépendante, qui a tout composé, tout écrit et qui mène sa carrière depuis des années, voilà, elle m'impressionne beaucoup. Voilà.
Vous parlez de Véronique Sanson, si je vous parle de Jeanne Chéral, deux univers très proches là aussi, il me semble.
Oui, voilà, c'est ça. C'est femme, auteur, compositeur, ça me touche. Une femme auteur compositeur, de toute façon, voilà, ça me touche en fait. C'est plus rare de voir des femmes qui vont aller à leur instrument, écrire leurs mots, écrire, porter leur voix et tout. Et je trouve que c'est très émouvant et très fort comme acte.
Et vous êtes donc en concert dans quelques jours chez nous au Maroc. Vous allez présenter les chansons de votre nouvel album à apparaître en avril prochain dans une forme dépouillée. Vous serez seule en scène avec un piano?
Ouais, les concerts, l'album est très pop, orchestral. Voilà, pop orchestral, on peut dire ça, chanson pop orchestrale. Donc, dans un deuxième temps, je partirai en tournée avec des musiciens pour vraiment, je pense, refléter plus les arrangements du disque. Mais j'ai commencé à faire une tournée piano-voix, un avant-tour piano-voix, pour être plus exact. Et j'ai tellement aimé ça, jouer piano-voix et être vraiment en contact avec les gens, être plus dans le texte, dans la voix, dans l'essence pure des chansons, sans artifice. J'ai tellement aimé cet exercice que j'ai proposé à mes producteurs de spectacle de continuer comme ça tout le début de ma tournée. Et donc, je vais venir au Maroc dans cette formation-là, piano-voix, vraiment pour découvrir les chansons.
Vos dates la semaine prochaine au Maroc, vous serez en concert jeudi à Meknès, vendredi à Rabat et samedi à Casablanca, à chaque fois dans les salles de spectacle des instituts culturels français. Merci Nash d'avoir accepté l'invitation de Bain de Culture ce dimanche.
Merci à vous.
On vous écoute une dernière fois Nash avec l'une de vos chansons sur ce précédent album. La chanson s'appelle Âme Mélodique. À bientôt.
Entends-tu cette
chante pour elle joue pour toi.
Midi, bain de culture avec David Labo.
Au sommaire de cette seconde partie, la compétition de breakdance de référence dans le monde, vendredi et samedi prochain à Marrakech. Les victoires de la musique le mois prochain en France, on va passer en revue les nominés. Et puis le regard du photojournaliste Tarek Ananou sur des hommes, des femmes, des enfants migrants. Un travail exceptionnel de 3 ans dans le nord du Maroc. Pour rejoindre Tarek, Summertime, par Angélique Kidjo. Culture, photographie. En l'occurrence, les photographies de Tarek Ananou. Bonjour Tarek.
Bonjour.
Vous êtes photojournaliste et vous êtes l'auteur d'une exposition présentée actuellement à la Villa des Arts à Rabat. Des clichés en noir et blanc d'hommes, de femmes et d'enfants qui tentent de gagner légalement l'Europe. Ce que l'on appelle à longueur d'articles, de journaux, les migrants. Vous avez travaillé durant 3 ans sur ce sujet dans le nord du Maroc, à Tanger, Septa, dans la forêt autour de Septa, la forêt de Belyounech. Racontez-nous comment cela s'est passé. Et tout d'abord, comment on arrive à gagner la confiance de ceux, de celles que l'on va photographier?
Eh bien, ici, on travaille sur 2 collectifs. Alors, il y a une collective, c'est les mineurs qui sont en train de risquer dans les camions. Et les autres, ils sont les subsahariens surtout ici à Tanger. Dans un premier moment, pour faire du confiance et tout ça, j'ai loué un petit espace dans un bâtiment ici à Bou Khalfa, un bâtiment exclusif
quartier de Tanger.
Ouais. Mm-hmm. exclusif pour des subsahariens. Et comme ça, j'ai commencé un peu tout. Et avec les gamins de la rue, et en train de rester avec eux jour, nuit, tout ça.
Au fur et à mesure, vous faites partie du paysage, ils vous connaissent, ils vous font confiance.
Oui, non, donc ici, il y a un petit problème, non? Parce qu'il y a beaucoup de photographes, des journalistes et tout ça qui arrivent et ils font ce travail très rapide. Et après, ils racontent ce qu'ils pensent, je sais pas, ils racontent pas, on va dire qu'ils racontent pas la réalité à 100%. Alors, dans un premier moment, si tu vas avec une caméra, ils ont peur. Ils t'ont dit, tu vas me montrer dans une mauvaise situation, quelque chose. Alors, il doit faire un travail délicat de confiance avec eux. C'est la base de tout.
C'est pour ça que votre travail ne s'est pas déroulé ni sur 3 jours ni sur 3 semaines, mais sur ces 3 années. Enfin, vous aviez
Ouais.
vraiment le temps pour vous.
Bien sûr, c'est un travail. Tu fais les photos, tu le ramènes à eux. Il y a beaucoup même qui te dit qu'ils voulaient ces photos dans des mauvaises situations parce qu'ils te disent, le lendemain, je serai en Europe avec une bonne vie et tout ça, et je veux me rappeler mon trajet et tout ça. Alors, aussi, il y a une double face ici. Je fais mon travail, mais aussi, je suis en train de lui montrer à lui-même. Je sais pas comment.
Votre exposition photo s'appelle La Bonne Vie, point
Ouais.
d'exclamation, La Bonne Vie. C'est ça, en fait, c'est ce que vous venez de nous dire. Vous l'avez baptisé ainsi parce que c'est ce à quoi toutes ces personnes aspirent. Elles imaginent qu'une fois traversées, ce sera tellement mieux. Et donc, c'est ça, c'est la bonne vie, c'est le futur, tel qu'on l'imagine, tel qu'on l'espère.
Oui, c'est un peu ça. Et aussi, on a mis Septa, parce que Septa, voilà, c'est l'Europe, pour montrer que ça, de la bonne vie, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y a beaucoup, beaucoup de gamins, par exemple, à Septa, sur le port, qui sont en train de risquer sur des camions, avec une vie très mauvaise, avec une vie qui n'est pas bonne, qui n'est pas le dream qu'ils ont.
Ce qui est intéressant, évidemment, dans votre travail, c'est que la migration, on en parle constamment dans les informations, mais souvent, c'est sous forme de chiffres, de statistiques, tant de personnes qui sont arrivées ce matin sur une plage en Espagne, le bilan des arrivées en Europe, le bilan des noyades en Méditerranée. Vous, l'intérêt de votre travail, c'est que vous donnez un visage, des visages à toutes ces personnes. Vous parliez de Septa, où il y a ces jeunes qui sont comme ça sur le port. Je crois que vous avez un jour rencontré un jeune homme, Younes, qui vous a demandé votre téléphone. Il voulait appeler sa mère, restée à Casablanca.
Ouais, parce que si en train de faire la photo, je suis avec eux, je suis dans leur équipe. Et un jour, une gamin, il m'a dit, s'il vous plaît, tu me peux laisser ton téléphone pour parler avec ma maman. Il a pris le téléphone et sa mère, basiquement, il a dit que il doit être un homme, sinon il ne peut pas retourner à la maison. Une enfant de 15 ans, qu'il est dans la rue, qu'il est toujours avec des substances, stupéfaçons et tout ça. Ça a été vraiment très dur. Ça a été vraiment très dur.
On parle de ces itinéraires singuliers, on parle de ces vies à chaque fois différentes. Dans l'exposition photo, il y a un cliché d'un jeune homme à qui il manque un bras.
Ouais.
Et ce bras, il l'a perdu durant ce long trajet depuis son pays d'Afrique subsaharienne jusqu'au nord du Maroc. Hein.
Oui, c'est ça. Il
Il s'appelle Fred en l'occurrence,
Fred, oui, je
et du
l'ai.
nord du Cameroun.
Ouais, c'est une photo que j'ai pris dans la forêt de Blionesh. Là-bas, il y a des campements de subsahariens qui
C'est la
sont.
forêt qui entoure cette enclave espagnole dans le nord du Maroc,
Ouais.
hein, et c'est un relief très escarpé. C'est vraiment, on est dans la montagne.
Ouais, non, c'est vraiment difficile d'arriver là. Eh ben, ce sont des gars qui sont en attente pour sauter le grillage de Septa. Et c'est lui-même, il n'y a pas un bras. Et aussi, il y a une chose que tous les gars qui arrivent là-bas, dans la forêt de Bléonès, c'est parce qu'ils n'ont pas d'argent pour payer le minimum pour passer sur la mer. Alors là-bas, tu trouves tous les gars qu'ils ont rien, qu'ils ont vraiment rien.
C'est un sujet sensible, celui que vous avez traité. Il y a beaucoup d'implications politiques. On voit comment les pays d'Europe se renvoient la balle entre eux. Il y a les relations entre l'Europe, les pays d'Afrique, le Maroc. Comment ça s'est passé, vos rapports avec les autorités, la police en général? Ce n'est pas toujours facile de sortir un appareil photo, je pense.
C'est très difficile. C'est vrai que j'ai passé beaucoup d'heures au commissariat, j'ai passé des mauvaises situations, mais ok, c'est bien, on a le produit, on a le résultat maintenant. Alors, mais oui, c'est très difficile. Mais pas seulement ici au Maroc, à l'Espagne aussi. Hein. À l'Espagne aussi, j'ai eu des très grands problèmes, avec, surtout avec la Guardia Civile, en train de faire ce travail-là, parce qu'il y a comme des intérêts pour ne pas montrer une réalité.
Vous avez un accent, Tarek, un accent espagnol que l'on entend. La raison, c'est que vous habitez dans l'enclave espagnole de Ceuta, dans le nord du Maroc. Vous y êtes arrivé avec vos parents, vous aviez 10 ans. Au passage, je signale que votre père est lui-même photographe, Hamadi Ananou. Oui. Connu et reconnu, on a déjà eu l'occasion de le recevoir dans cette émission. Je referme la parenthèse. Pour nos auditeurs qui ne sont pas au Maroc, qui ne se représentent peut-être pas forcément ce que cela représente, Ceuta, c'est à 60 km de Tanger, à 40 km de Tétouan, c'est un confetti d'Europe posé comme cela sur le sommet de l'Afrique. C'est des grands murs, des kilomètres de barbelés. Vous-même, vous avez grandi dans cette enclave, avec d'un côté ce mur de séparation avec le Maroc et de l'autre la Méditerranée. Quel sentiment on a quand on vit comme cela dans une enclave, quand on grandit dans une enclave un petit peu cernée? Il y a la mer d'un côté et il y a la frontière de l'autre. C'est un sentiment un peu étrange peut-être?
Ah oui, c'est... Eh ben bon, ici, mon origine aussi, c'est migrant. Et cette expérience à Ceuta, ma vie à Ceuta, il m'a donné des questions. Des questions pour moi-même, non? D'où je viens.
Vous dites que vous êtes migrant, pardon, parce que vous êtes d'origine marocaine.
Bien sûr.
Vous êtes né à Madrid, mais vos parents sont marocains.
C'est ça, c'est juste pour ça que j'ai commencé ce travail-là, de faire ce travail de documentaire, du photo sur l'immigration aussi, pour comprendre des choses avec moi-même, non ? De comprendre mon origine, d'où je viens et tout ça. Ils ne sont pas le même collectif, il y a des subsahariens. Moi, je suis d'origine marocaine, mais je trouve que c'est la même chose. Et l'expérience personnelle, ça a été énorme, énorme. Plus que l'expérience professionnelle.
On le dit, c'est difficile de travailler sur ce sujet. Ces derniers temps, où la situation s'est particulièrement tendue, c'était de plus en plus difficile.
Oui, bien sûr, surtout aujourd'hui. Aujourd'hui même, c'est plus difficile que ça fait un an. Parce que la pression des autorités, il est très grand, très très grand. Il n'y a pas d'intérêt, un intérêt surtout qu'il vient de l'Europe. Il n'y a pas un intérêt de montrer ça. Et moi, avec les adultes, je ne le comprends pas. Je peux arriver à le comprendre un peu. Mais avec les enfants, non. Avec les enfants, moi, je ne sais pas pourquoi ils se cachent cette réalité. Surtout parce que... On a des enfants dans la rue, dans une mauvaise vie, et ça, c'est une responsabilité d'adulte, sociale. Les adultes, on doit faire quelque chose pour pas trouver des gamins sur nos rues, des gamins en train de risquer sa vie sur des camions.
Voilà, la mauvaise vie, puis la bonne vie, celle que l'on espère de tout cœur, ce projet comme cela, que... de se sortir de sa condition très difficile. La bonne vie de Tarek Ananou, c'est visible jusqu'au 28 février à la Villa des Arts de Rabat. Courez-y, ce sont des photos très fortes, de très beaux clichés en noir et blanc avec des regards qui vous poursuivent plusieurs jours après les avoir croisés. Merci beaucoup Tarek Ananou d'être venu dans cette émission.
Merci à vous.
David Labo.
Jungle sur Mehdi 1. On parle maintenant des Undisputed Masters. Figurez-vous que dans le monde du breakdance, c'est un must. Il n'y a pas mieux. Une compétition des meilleurs champions qui viennent des 5 continents. Alors le soir de la finale, le vainqueur est sur le toit du monde. Ça se passe vendredi et samedi prochain à Marrakech. Ce sera en public. Du très beau spectacle en vue. Sur scène, 9 danseurs, Décador, ce sont les meilleurs. Comment ont-ils été sélectionnés? Zubir Chibi, l'un des organisateurs, il a répondu aux questions de Mounia Belarbi.
Ils se sont qualifiés à travers des événements prestigieux, qui est un petit peu un circuit. Et ces événements, ils sont un petit peu partout dans le monde, donc aux États-Unis, à Taïwan, c'est des battles. Et en fait, ces battles-là, ils ont une compétition le 1 contre 1. Et donc, chaque gros événement tire un champion.
Oui.
Donc en fait l'idée d'organiser cet événement c'était vraiment de dire que le champion est incontesté car en fait chaque fois qu'un danseur gagnait un de ces gros événements, on va dire c'est un peu l'équivalent d'un grand chelem,
oui.
Il se autoproclame champion du monde,
mm-hmm.
Et donc là on réunit entre guillemets tous les champions du monde. C'est un peu comme une réunification de ceinture à la boxe.
D'accord.
Et à la fin, il n'en restera qu'un, en fait.
D'accord.
Voilà.
Alors, on revient à cette histoire de vocabulaire. C'est de la breakdance, on est d'accord?
Exactement, c'est de la breakdance. Et donc, c'est de la danse hip-hop. C'est de la danse hip-hop donc, qui est au sol et aussi qui a la particularité d'être aérienne.
Et acrobatique.
Acrobatique, exactement. C'est la danse la plus complexe au niveau de la danse hip-hop parce que ça demande beaucoup d'efforts physiques, de créativité, d'originalité. Et c'est une danse, entre guillemets, pour un public novice. C'est une danse, quand c'est la première fois qu'on le voit, on est toujours un petit peu étonné de voir ceci car il défie les lois de la gravité, quoi.
Oui.
Tout simplement.
Les champions, les grands champions qui vont se rencontrer à Marrakech pour essayer de décrocher le titre suprême. Il y en a 8, je crois, 8 participants.
Il y en aura 9 précisément,
car
la 9e personne sera un danseur marocain.
Très bien.
Parce que pour nous, il était important d'avoir un danseur marocain qui puisse représenter le pays, en sachant que le Maroc, c'est une terre de culture, c'est une terre de talent, et elle dispose d'un vivier en termes de danseurs b-boying, breakdance, très 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 bons. Ils sont très très forts au Maroc.
Oui.
Ils ont très bonne réputation à l'international. Et donc, on aura les 8 meilleurs danseurs mondiaux, plus un danseur marocain.
Alors, ce qui est étonnant, c'est quand on regarde la liste, ils viennent les 8 du Canada, des États-Unis, de France, de Russie, de Grèce, de Venezuela, du Japon, de Pologne. C'est un phénomène planétaire, le breakdance.
Exactement. C'est-à-dire, aujourd'hui, il n'y a plus de frontières. On avait pensé à l'époque que c'était un effet de mode, mais non, en fait, c'est une culture. En fait, c'est rentré un petit peu dans les mœurs. On va dans n'importe quel pays du monde, c'est-à-dire que ce soit l'hémisphère nord ou sud. Ça danse partout dans le monde entier, et notamment dans le continent africain. C'est-à-dire, vous allez dans n'importe quel pays, par exemple, vous allez trouver des danseurs, Amérique latine, l'Europe. Enfin, voilà, c'est un mouvement qui est né aux États-Unis dans les années 80 et qui s'est un petit peu propagé dans le monde entier. C'est le virus de la danse et aujourd'hui, quand on regarde un petit peu avec le recul, tout le monde danse. Donc voilà, que ce soit de la danse hip-hop, de la danse salsa ou ce que vous voulez. Mais aujourd'hui, c'est-à-dire, voilà, c'est la danse, c'est quelque chose, on va dire, de primaire en termes de mouvement, en termes d'artistique. Donc c'est pas étonnant.
Et en même temps, entre danser ou se trémousser et faire de la breakdance avec ce que ça comporte de figures acrobatiques qu'il faut mêler aussi à une certaine grâce, à une chorégraphie, etc. C'est quand même une discipline extrêmement pointue.
Exactement, très pointue, c'est-à-dire ça demande beaucoup d'heures d'entraînement. Ça veut dire un danseur, entre guillemets, professionnel, c'est minimum 20 heures d'entraînement par semaine,
oui.
Minimum. Et donc, pour acquérir et, on va dire, bien contrôler cette pratique-là, ça demande beaucoup d'entraînement, de sacrifices et aussi de risques, car ils prennent des risques. C'est-à-dire aujourd'hui, c'est des danseurs qui défient un petit peu, comme je l'ai dit précédemment, les lois de la gravité. Donc voilà, ils n'hésitent pas à prendre des risques et c'est un petit peu leur adrénaline derrière de pousser encore un peu plus loin pour effectuer de nouvelles figures, par exemple.
Zubir Chibi avec Mounia Belarbi, cette finale mondiale de breakdance, vendredi et samedi prochain à 20h dans la salle Leïla Alaoui de l'Institut français de Marrakech. Pour terminer l'émission, les victoires de la musique en France, les récompenses décernées chaque année par les professionnels de la profession aux chanteuses et aux chanteurs. Ils sont 600 à voter. Ce sera dans moins d'un mois, le 8 février prochain. Les nominations ont été dévoilées cette semaine. En tête, la star montante Eddy de Préto et le rappeur Orelsan. Pour nous en parler, c'est Soukéné Aziz.
Qu'est-ce qu'on fait? Laisse tomber, laisse tomber, laisse tomber, laisse tomber. Tout le monde m'a dit de laisser tomber, mais pourtant je suis toujours là.
Orelsan pourrait réaliser un nouveau triplé après celui de l'an dernier. L'artiste normand est en concurrence avec la pétillante Aya Nakamura dans la catégorie album de musique urbaine.
Oh, dja, dja. Y a pas moyen, dja, dja. J'suis pas ta gata.
Comme Aya Nakamura, Big Flo et Oli, le duo toulousain rafle deux nominations, notamment une première dans la catégorie meilleur artiste masculin, aux côtés d'Eddy De Pretto et Étienne Dao.
Et je comprends pas.
Le prix de la meilleure artiste féminine sera départagé entre trois artistes, Vanessa Paradis, 7 victoires de la musique au palmarès, Jeanne Haddad et Chris, anciennement Christine and the Queens. Elle avait remporté ce prix en 2015. La Belge Angèle débute l'année avec deux nominations. Sa chanson « Tout oublié » en duo avec son frère Roméo Elvis se retrouve dans la catégorie « Création audiovisuelle ». Le titre est actuellement numéro 1 en France.
L'esprit n'est plus à la mode, c'est pas compliqué.
Tout, il faudrait tout oublier. On pourrait croire, il faudrait tout oublier. Bonjour, mais là j'ai trop joué.
Voilà, et c'est avec Angèle et Roméo Elvis que l'on referme cette émission. Très bon dimanche, bon week-end, à la semaine prochaine.
N'existe pas sans son contraire, une jeunesse pleine de sentiments. L'ennui est inconditionnel, je peux ressentir le malaise des gens qui dansent. Essaye d'oublier que tu es seul, vieux souvenir comme la DSL. Et si tout le monde t'a délaissé, ça s'est passé après les sols.
Il faudrait tout oublier, pour y croire. Faudrait tout oublier. Bonjour, mais là j'ai trop joué. Ce bonheur, si je le veux, je l'aurai.
L'esprit n'est plus à la mode, c'est pas compliqué d'être heureux. L'esprit n'est plus à la mode, c'est pas compliqué. L'esprit n'est plus à la mode, c'est pas compliqué d'être heureux.
Si ça me soit juste heureux, si tu le voulais, tu le serais.
Oublie que tu es toujours seul. Oublie qu'elle t'a blessé. Oublie qu'il t'a trompé. Oublie qu'elle t'a perdu tout ce que t'avais. Si ça me soit juste heureux, si tu le voulais, tu le serais.
Tout, il faudrait tout oublier. Pour y croire, il faudrait tout oublier. On joue, mais là j'ai trop joué. Ce bonheur, si je le veux, je l'aurai. Tout, il faudrait tout oublier. Pour y croire, il faudrait tout oublier. Bonjour, mais là j'ai trop joué. Ce bonheur, si je le veux, je l'aurai.
L'esprit n'est plus à la mode, c'est pas compliqué d'être heureux. L'esprit n'est plus à la mode, c'est pas compliqué. L'esprit n'est plus à la mode, c'est pas compliqué d'être heureux.